BFM Business présente les experts de l'IMO, Marie-Cœur de Roy.
Et il est midi sur BFM Business, l'heure des experts de l'IMO. Mais avant cela, un rappel des titres de l'actualité et un peu d'optimisme sur les marchés financiers. Les places européennes sont dans le vert, figurez-vous, y compris notre CAC 40 au-delà des 8100 points. Légère détente également sur le marché obligataire avec la dette de l'État français à 10 ans qui repasse sous les 3,7%. Les prix du pétrole sont également en recul, même si le baril de Brent reste au-delà des 105$. Un apaisement des marchés lié à des informations de presse évoquant une nouvelle visite aujourd'hui d'un émissaire pakistanais en Iran pour discuter de nouveau d'un possible accord de paix avec les Américains. En attendant, en France, le gouvernement officialise de premières mesures d'économie pour compenser les nouvelles aides annoncées hier pour les secteurs les plus touchés par la menace inflationniste. Le ministre des Comptes publics confirme un gel des allègements de cotisations sociales des entreprises sur les bas salaires à compter du 1er juin. Les charges patronales supplémentaires engendrées par la hausse du SMIC équivalent à 2 milliards d'euros. Allez, c'est l'heure des experts de l'IMO.
BFM Business, c'est toute l'information économique et financière gratuitement à la télévision.
Votre programme avec Bien Ici.
On est bien ici.
Trouvez votre futur logement par vie de quartier et temps de trajet sur bienici.com.
BFM Business présente les experts de l'IMO, Marie-Cœur de Roy.
Et les experts de l'IMO, c'est tous les jours à l'heure de votre déjeuner sur BFM Business. Une demi-heure pour parler de notre immobilier, de nos logements. Et comme tous les vendredis, les meilleurs professionnels de ce secteur laissent leur place aux meilleurs journalistes du secteur. En l'occurrence, à mes côtés aujourd'hui, Virginie Grolot et Sylvain Lévy. Au programme, vous le savez, on commencera par le fameux topoto de la semaine. Et on en profitera, figurez-vous, pour faire un focus sur un prêt à taux zéro familial, le PTZ familial proposé par une députée bien consciente du lien entre la natalité et les difficultés d'accès à un logement adapté. Ensuite, également au programme de ces experts de l'IMO du vendredi, dans le désordre, un coup d'œil sur la production de logements neufs, le nouveau dispositif Jean Brun, bientôt revu et corrigé, un méga centre commercial dans le 91. Oh, et puis si je vous disais qu'une ville va baisser sa fiscalité locale, vous me croyez? On vous dira laquelle en fin d'émission. Allez, on y va tout de suite.
Les experts de l'IMO, le débat.
Et pour démarrer, nous sommes en ligne avec Constance de Pélichy, députée Lyotte de la 3e circonscription du Loiret. Bonjour Constance de Pélichy.
Bonjour, merci pour votre invitation.
Bah merci pour surtout votre proposition de loi, en l'occurrence dans ces experts de l'IMO, on l'accueille à bras ouverts. En l'occurrence, cette proposition de loi, elle sera débattue la semaine prochaine, jeudi prochain, par les députés à l'Assemblée. Concrètement, est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur ce prêt à taux zéro pour les familles ?
Avec grand plaisir. En fait, pendant 6 mois, j'ai présidé les travaux sur la dénatalité en France. Et ces travaux ont mis en évidence un lien majeur entre accès au logement et natalité. On a même démontré au cours de ces travaux que les 3/4 des couples qui renoncent à un enfant le font à cause du logement. Moi, j'ai trouvé ça totalement insupportable et c'est la raison qui m'a amenée à penser à un prêt à taux zéro spécifique pour les familles. L'objectif, c'est de la déclaration de grossesse aux 5 ans de l'enfant, permettre aux familles de pouvoir plus facilement adapter ou déménager de leur logement.
Alors très concrètement, on parle en plus d'un prêt à taux zéro quand même super attractif, il ira jusqu'à 100 000 euros. Et quand vous dites dès la naissance de l'enfant, ou du deuxième, ou du troisième, on est d'accord que ce n'est pas que pour le premier enfant, vous me voyez un peu intéressée là.
Exactement. On déménage pas tous les 2 ans, on n'achète pas une nouvelle résidence principale tous les 2 ans, vous le savez bien. Il faut 7 à 10 ans avant de revendre sans perdre de l'argent quand on a acheté son bien. Donc l'objectif, c'est vraiment pour les Français à qui il manque une pièce, de pouvoir les accompagner pour favoriser soit leur accession à la propriété lorsqu'ils ne sont pas encore propriétaires, soit leur déménagement ou même l'extension et l'agrandissement de leur logement. C'est bien un prêt qui a vocation à accompagner la famille dans ses évolutions.
Alors vous le dites très justement, c'est aussi pour ceux qui sont déjà propriétaires. Autrement dit, ce prêt à taux zéro qui sera cumulable avec celui qu'on connaît, il pourrait aussi s'adresser à ceux qui ne sont pas éligibles au prêt à taux zéro actuel, ceux qui sont déjà propriétaires. Est-ce que vous pensez qu'une partie de la gauche peut être convaincue et peut aller dans votre sens compte tenu de cette universalité du dispositif que vous proposez ?
Eh bien, sincèrement, on a eu des discussions encore hier avec les députés socialistes. Je pense vraiment qu'un chemin est possible parce qu'ils ont convenu que Bah, finalement, pour les couples qui ont acheté un petit peu avant le Covid ou même juste en sortie de Covid, les taux étaient entre 1,2 et 1,5. Bah, revendre aujourd'hui et prendre un taux à 3,5, voire peut-être 4 bientôt, c'est juste impossible. La perte financière, elle est beaucoup trop importante si elle n'est pas accompagnée par l'État. Et donc, en fait, dire qu'on accompagne aussi ceux qui sont déjà propriétaires de leur logement, c'est pas créer un effet d'aubaine pour ceux qui ont déjà du patrimoine. C'est véritablement accompagner une partie importante de la population qui a besoin de ce petit coup de pouce dans le contexte vraiment particulier qu'on connaît aujourd'hui pour pouvoir évoluer au gré de leur famille. Le deuxième élément, c'est que depuis le Covid 2021, il y a des secteurs en France où on a perdu l'équivalent de 11 mètres carrés de pouvoir d'achat immobilier. Tellement les prix de l'immobilier sont volatiles et ont pu monter encore très fortement ces 5 dernières années dans certaines régions en France. Donc ce petit coup de pouce qu'on va donner via ce prêt à taux zéro peut avoir un effet très significatif sur le taux d'effort et du coup sur le pouvoir d'achat immobilier des Françaises et des Français qui en ont vraiment besoin au moment où ils font des enfants.
Une dernière question, Constance de Pélichy, forcément, compte tenu de nos problématiques budgétaires du moment. Est-ce que il faudra aussi convaincre Bercy, évidemment? Est-ce que vous avez évalué le coût de cette mesure? On parle pour l'instant d'un prêt qui irait jusqu'à 100 000 euros. Est-ce qu'il peut être modulé en fonction des revenus pour peut-être que l'impact budgétaire soit moindre et qu'il n'y ait pas cet effet d'aubaine dont vous parliez il y a quelques secondes?
Je pense que dans votre émission, vous savez mieux que personne que les négociations avec Bercy en termes de logement, c'est compliqué. Première chose que je leur rappelle, c'est que il y a peu de mesures qui rapportent de l'argent à l'État. Or, c'est le cas quand on soutient le logement. Le PTZ actuel, il a créé entre 36 000 et 46 000 emplois, rien que par l'effet levier dans la construction. Il y a la TVA que ça rapporte, il y a les droits de mutation que ça rapporte. Bref. Investir dans le logement et dans ce PTZ, ça rapporte aussi de l'argent, au-delà même du fait qu'on investit juste dans notre survie, je vous le rappelle, puisqu'il s'agit d'accompagner les gens dans leur désir d'enfant. La mesure, elle est estimée aujourd'hui à 120 millions d'euros par Bercy. On est en train de travailler pour leur proposer une modularité, effectivement, en fonction des revenus. Mais moi, je tiens beaucoup à ce que tout le monde, quelles que soient les conditions de ressources, soit éligible au dispositif. Quand vous achetez à Rennes, à Lyon, c'est pas pareil que quand on achète à côté de chez moi, dans le sud de Loiret. Il y a des effets de seuil qui sont quand même très importants. Donc, on peut moduler les quotités. J'ai pas de problème avec ça en fonction des ressources. Par contre, tout le monde doit avoir droit à un minimum de PTZ, quelles que soient les conditions de revenus. C'est à la fois parce que c'est une politique familiale et qu'elle se doit d'être universelle, mais c'est aussi parce que les conditions d'accès à la propriété ne sont pas les mêmes partout.
Merci Constance de Pélichy, députée Lyotte de la 3e circonscription du Loiret. C'était important de faire ce lien justement entre la natalité et l'accès à la propriété, l'accès à un logement adapté. On en parle régulièrement à l'antenne et c'est d'ailleurs pour ça qu'on va continuer à en parler sur ce plateau avec Sylvain Lévy-Valency, cofondateur de Radio Immo. Bonjour.
Bonjour Marie.
Et Virginie Grolot, bonjour, chef Virginie. De rubrique immobilier à Challenge. Bonjour Virginie.
Bonjour Marie, bonjour Sylvain.
Et on en parlait avec Madame la députée, mais je pense qu'il faut qu'on continue parce que ce prêt à taux zéro, il a d'autant plus d'impact que nos taux immobiliers progressent et c'est donc l'heure de lancer notre super jingle du vendredi.
Les experts de l'IMO, le topoto de la semaine.
Et il est parti vite, Alban, en régie avec notre jingle. Je vous regarde avant qu'on reparle des taux de marché, quand même, petite réaction de tous les deux. C'est quand même une proposition qui est ultra intéressante, quand même.
Ah oui, oui.
Enfin, il était temps, je vous regarde tous les deux. Non, mais
moi, je suis très dubitatif.
Dubitatif, Sylvain.
Ah, très dubitatif.
Ah, pourquoi dubitatif?
Mais vas-y.
Allez-y.
Vous savez combien il y a de députés aujourd'hui en ce moment qui bossent...
J'allais dire 577.
Vous savez combien il y a de députés qui bossent en ce moment sur des projets de loi, sans aucune coordination? On en a déjà 4 que j'ai repérés. Alors vous savez que Valérie Létard, elle est sur un projet de loi aussi, avec Michael Cosson. On a Lionel Cos aussi qui a travaillé là-dessus, sans avertir d'ailleurs, sans se coordonner avec Anaïs Glemeur. Mais à la limite, pourquoi pas, c'est pas le sujet. Anaïs Glemeur qui, elle-même, présidente du Conseil national de l'Habitat, réfléchit à cela. Là-dessus, on a un ministre du Logement et de la Ville qui refait, on va en parler tout
un
à l'heure,
une
nouvelle
logement,
étendue
ouais.
de son projet Jean Brun. Bref, désordre absolu. Dans une politique du logement qui est absolument ni concertée, ni visualisée. Donc, moi, ce que je dis, c'est que c'est un pansement sur une jambe de bois. Je donne juste un chiffre. 651 000 décès en 2025, 645 000 d'essence. C'est-à-dire que
mais bien sûr, plus de cercueils que de berceaux.
Maintenant, dire qu'en redonnant du pouvoir d'achat à des Français qui n'arrivent même plus à payer l'électricité, qu'on va leur faire un prêt à taux zéro pour relancer la politique du logement, mais enfin, de qui se moque-t-on, quoi.
Mais moi, je suis pas d'accord, Sylvain. Mais à un moment donné, combien sommes-nous à avoir hésité à faire un nouvel enfant faute de logement accessible, en fait?
Mais si le sujet, c'est d'avoir le PTZ supplémentaire pour pouvoir acheter, là n'est pas le problème.
Non, mais c'est une mesure en fait qui va peut-être avoir des effets éventuellement à court terme. Il y a deux sujets. Il y a un problème de pouvoir d'achat à court terme qui effectivement empêche certains ménages de se lancer dans un deuxième ou un troisième enfant, et ils ont besoin d'une aide pour éventuellement s'agrandir, déménager, etc. Et il y a un problème de long terme, et c'est sûr que les prêts à taux zéro famille, ça va pas tout d'un coup relancer la natalité.
Ça fait partie, c'est un outil.
Il y a un problème de prix des logements qui est décorrélé du pouvoir d'achat des ménages, et ça c'est un problème de long terme pour lequel il faut accroître l'offre de logements disponibles. Il y a des études, je crois, il y avait des études cette semaine aux États-Unis sur plus il y a de logements vacants, moins les loyers sont élevés, par exemple. Donc, on voit qu'il faut qu'il y ait de l'offre pour baisser les prix. Et c'est là où, une fois que le logement sera accessible, les ménages feront des bébés. Ouais. Mais on est sur deux temporalités, en fait. Et donc, il y a le côté pansement sur le jambe de bois. Moi, je dis plutôt mesure de court terme. Effectivement, moduler les quotités par rapport aux revenus des ménages, mais accorder l'universalité du dispositif, c'est sans doute une bonne solution. Mais ce ne sera pas la baguette magique que tout le monde attend, parce qu'il n'y a pas de baguette magique.
Il n'y en a pas. Il faut bien qu'il y ait quand même des
prêt, logements. Un prêt, pardonnez-moi, mais un prêt à taux zéro, c'est un prêt.
Évidemment. Enfin, l'effet, il est quand même pas rien. On a commencé à faire des petites simulations. Je salue Sandrine Alonier chez Vous Financer, à faire des petites simulations sur l'impact de ces 100 000 euros supplémentaires à 0% d'intérêt. Dans tout un tas de cas de figure, ça vous fait gagner au moins 9 à 10 mètres carrés, quoi.
Enfin, sans condition de revenu.
Sans condition, mais oui, mais alors madame,
non, mais
que
l'a dit, modulé en fonction,
on module
des
justement
revenus.
L'enveloppe de ce PTZ mais, en fonction, donc,
mais c'est là
des
qu'on
revenus.
Voit, c'est là qu'on voit la difficulté, l'incapacité d'un parlement, d'une politique globale, à avoir une vision multipolaire. T'as raison quand tu dis effectivement que c'est un problème de long terme, mais on peut pas conjuguer le problème de long terme avec que des mesurettes à court terme.
Ah ben, bah, c'est
que,
le problème.
C'est-à-dire que sans de penser, toute façon, sans pour penser global sur, par exemple, on en parlera tout à l'heure. De la fiscalité, de l'aménagement du territoire,
non, mais on est d'accord,
d'une temporalité à adapter, enfin, ça, et d'une vraie politique de peuplement et de planification. Parce que, en fait, en réalité, si tu regardes bien, la politique de peuplement, elle s'articulerait très facilement avec une politique de la relance de la natalité, à condition d'avoir une pensée multipolaire.
Oui.
Quand vous voyez, chère Marie, des députés, des sénateurs qui tirent chacun de leur côté en disant on va enfin. Alors, le côté positif, c'est qu'on a enfin des parlementaires qui se saisissent du côté logement. Mais savez-vous qu'il n'y a pas de concertation dans la pensée de chacun?
Oui, mais à un moment donné, on ne peut pas passer notre temps à dire qu'il ne se passe rien, alors qu'on a quand même des élus qui essaient, bon an, mal an, de trouver. Oui. Ben oui, mais le sujet de la crise du logement, il ne se réglera pas avec une proposition de loi. On est bien
positif,
d'accord.
C'est toujours positif, il n'y a pas de doute. Mais évidemment que c'est toujours positif. Mais c'est là qu'on voit, en fait, la fin de l'exercice par rapport à une politique dont Emmanuel Macron a été l'instigateur depuis le début, pour mettre à genoux, pardonnez-moi, toute une industrie est plongée dans la précarité des millions de Français. Voilà ce
que
je dis.
Pour une fois que c'est dit, pour boucler la boucle, parce que le topoto, normalement, on vous donne le taux de marché, je le fais très vite fait quand même, 3,5%, hein, c'est ça ?
3,23 en moyenne, Observatoire Crédit Logement sur le dernier mois, et puis on approche des 3,5%. Banque Centrale Européenne, pour l'instant, pas d'augmentation, à voir en juin. Retour de l'inflation, ça c'est pas terrible. L'OAT qui est plutôt dans les zones de 3,80% depuis plusieurs semaines, donc c'est quand même plus élevé. Et puis, un point qui était souligné aussi, on a redépassé la barre des 8% de taux de chômage, donc c'est quand même des signaux qui ne sont pas hyper positifs. Pour autant, on a toujours cette offre des banques sur des
petites
pousses, des aides, etc. Il y a le prêt à taux zéro. C'est...
Mais on va continuer. Je vais faire le lien finalement entre ces taux d'intérêt et les prix de l'immobilier, parce que vous avez relevé une étude de Se Loger, je crois, sur justement notre pouvoir d'achat concrètement entre les taux et les prix. Bah forcément, il est pas le même partout. Hein.
C'est ça, mais c'est en fait Se Loger a fait une étude sur qu'est-ce qu'on peut acheter avec 250 000 euros. Alors, pour donner une idée, si on emprunte 250 000 euros aujourd'hui, c'est grosso modo 1 500 euros sur 20 ans. 1500 euros par mois, évidemment. Ouais. Autant vous dire que le grand écart, on le connaît. Enfin, il est sans surprise. 23 mètres carrés à Paris, 180 mètres carrés à Mulhouse ou Saint-Étienne. C'est un rapport de 1,8 qui prouve bien qu'il y a une hétérogénéité des prix de l'immobilier très, très forte. Bon, là, j'enfonce des portes ouvertes. Ça vous donne 95 mètres carrés en moyenne. Et un chiffre intéressant, c'est 58% des Français peuvent acquérir, selon leur ville, hein, bien sûr, plus de 80 mètres carrés. Donc, 80 mètres carrés et plus, on est quand même plutôt sur un logement qui commence à être familial. Donc, ouais. Il faut descendre dans la structure de crédit, de prix, pour voir ce que les ménages peuvent acheter. Et 15% qui peuvent acheter, beaucoup moins, dans les grandes villes. Ce qu'il faut regarder aussi, et c'était l'étude, c'est qu'effectivement, hein, les ratios vont de 1 à 3 ou voire 4 dès qu'on est à 5, 10, 15, 20 kilomètres. Il y a des villes, par exemple, si on prend assez près Lormont, qui permet d'acheter beaucoup plus grand que Bordeaux. Si on est à Montaigu, on est beaucoup plus loin de Nantes, mais...
ça y est, j'ai l'air.
Ça c'est... la théorie, ouais, et puis après, il faut regarder la pratique, c'est-à-dire prendre en compte les coûts de transport. On voit que là, il y a les coûts du carburant qui pénalisent le budget des ménages, etc. La présence de services, la présence de commerce, etc. Donc,
c'est toujours ce calcul à faire.
Mais élargir son périmètre, ça peut quand même toujours donner des pistes
donc,
pour mieux se loger.
S'éloigner de l'emploi. Non, pas forcément
beaucoup.
Justement, partir à 10 kilomètres,
entre Paris et 10 kilomètres de Paris, les prix, c'est vraiment pas la même chose. Dans le 92, 93, 94...
15 kilomètres de Paris, François Bois, pas de souci.
Si vous voulez visiter, Sylvain.
Ça, c'est très très bon. Ce que je veux dire, c'est que d'un point de vue global, bien évidemment, plus on s'éloigne des bassins d'emploi et des bassins économiques,
moins c'est cher.
Le logement, encore une fois, on voit bien que l'impact de la spéculation des prix, j'entends bien les effets spéculatifs de l'immobilier par les contraintes, effectivement, d'étalement du territoire, les problématiques de fiscalité, mais aussi le fait qu'on ait tordu le cou à des propriétaires, malheureusement, qui ont désinvesti massivement, on provoque une crise systémique. Et je vais vous dire, ce sont forcément, malheureusement, les classes les plus modestes qui paieront, encore une fois, malheureusement, l'addition dans la difficulté d'accès au logement.
Et vous parliez d'investissement, donc la boucle est bouclée. Parce qu'il nous reste 9 minutes, on a plein de sujets.
Je fais la transition sur le Jean Brun, ce qui est intéressant dans le dispositif.
Oui.
Il n'est plus zoné, Toutefois, si on se rappelle le Robien, puisque c'est un peu le même genre de
dispositif. Les Robiens de la colère.
Les promoteurs étaient allés construire n'importe où. Donc, encore une fois, il faut être vigilant. Pardon, je laisse la parole à Sylvain.
Non, mais c'est très bien parce qu'elle nous permet de faire justement la bascule vers Sylvain et sur ce fameux Jean Brun, donc ce nouveau dispositif d'aide à l'investissement locatif.
Absolument.
Il va être revu et corrigé.
Oui, nous avons sorti un article dans le journal Expression, donc j'ai le plaisir maintenant de diriger la rédaction. C'est effectivement. Alors, je trouve ça malin, en fait. Je trouve ça malin parce que, alors, le côté zonage, oui, c'est pas de problème, c'est dézoné, c'était une volonté, c'est de la profession, c'est plutôt sain, etc.
Moi, je suis pas d'accord, mais.
Ce qui est intéressant, c'est la façon dont il interprète, par exemple, la remise en location des passoires thermiques et l'étendue notamment du dispositif sur les fameuses notes énergétiques qui rendaient impossible l'application du Jean Brun dans l'ancien. Donc, du coup, le minima cédé, et donc le DOM qui est beaucoup plus pratique, et moi je trouve ça, je salue l'idée, c'est de dire vous faites un saut de deux classes, il y a sept lettres.
C'est pas encore inscrit ça, pour l'instant c'est D, mais dans le débat budgétaire, dans le débat autour de ce projet de loi,
ça pourrait être... Pour une loi de finances, on peut pas modifier une loi de finances par dérogation, il faut une autre loi de finances qui spécifie. Par contre, on peut faire, et je cite le ministre, des modifications sur les quantums. Donc là, par exemple, sur les notes énergétiques, il a revu sa copie, je trouve ça extrêmement pertinent de dire, vous faites un saut de deux classes. Mine de rien, pour l'ancien, ça veut dire qu'on est à D, à maxima. Du coup, pour la régénération urbaine et la possibilité de la contrepartie, parce que je rappelle quand même qu'il y a une contrepartie sur la modération des loyers, et c'est du cœur de ville, et c'est souvent de la grande proximité urbaine, je trouve ça extrêmement intelligent. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est l'impact énergétique sur le coût même de la facture énergétique, puisque tout ça s'accompagne de travaux dont le but est de réduire la facture énergétique. Donc je salue ce dispositif qui est important. Alors effectivement, je peux faire un peu une ironie l'ironie du sort. On nous a imposé une contrainte dans le calendrier de la Renault avec les étiquettes A, F, G. Et là, d'un seul coup, on réintègre les passoires énergétiques dans le marché locatif, à condition qu'il y ait un engagement du propriétaire. Alors attention, c'est pas d'engagement, il n'y a pas de devis, mais dans 3 ans, il faut que la note ait eu une amélioration.
Donc, en fait, pour les maisons, 5 pour les appartements en copro.
Absolument, absolument. C'est-à-dire qu'en fait, souvent on a écrit, il faut un devis signé, il faut un accord. Non, pas du tout. Il loue, mais dans 3 ans, le coup prêt tombe. Alors ouais. Comment ce sera contrôlé, on ne sait pas, mais en tout cas,
il a
précisé qu'il n'a jamais été question de devis et qu'il laisse au propriétaire la capacité à prendre en charge cet élément-là. Moi, je voudrais vraiment le saluer parce que par rapport à la première version qui était peut-être un peu timide, je trouve que l'étendue, eh bien écoutez, elle peut se révéler être extrêmement positive.
Mais à tous les propriétaires bailleurs de passoires thermiques qui se frottent les mains, je rappelle quand même qu'effectivement, il y aura quand même un engagement de travaux à faire et que par ailleurs, il n'est pas dit qu'au moment de la discussion portant sur ce projet de loi logement, il n'y ait pas aussi l'introduction d'une baisse obligatoire des loyers compte tenu de la hausse des coûts pour le locataire.
Vous avez raison.
Attention à ça aussi.
Vous avez raison. Alors, abaissement des travaux aussi, vous savez, dans la nouvelle mesure, abaissement des travaux de 30% à 20%.
À 20% dans l'achat. Mais c'est vrai que voilà, il y a quand même un sujet autour.
Non, mais c'est bien, il n'y avait rien.
Alors, oui, c'est
alors,
bien.
Je cite Vincent Jeanbrun, c'est mieux que le Pinel et peut-être que cette mesure.
Je suis pas sûr.
C'est l'une des meilleures qu'on en aurait vues depuis les dernières années.
Alors, oui, non, mais voilà, mais c'est pas compliqué de faire mieux que rien. Hein, mais juste d'un mot quand même, on rappelle que dans toutes les villes tendues où il y a des vraies problématiques d'offre de logement à louer, il n'y aura aucun intérêt à faire du Jeanbrun. Pourquoi ? Parce que le loyer plafond qui est le plus haut que vous pouvez faire, ce fameux loyer intermédiaire, il est tellement éloigné du loyer de marché que compte tenu du prix d'achat, il n'y aura aucun rendement.
Donc
encore une fois, la problématique de ces dispositifs, c'est que ça s'adresse à des villes où il y a des besoins, mais pas les pires. Bref, je clôt le sujet parce que ce Jeanbrun, il s'applique dans l'ancien, il s'applique aussi dans le neuf. Alors, ça va mieux dans le neuf, Virginie ?
Dans le neuf, ça va pas beaucoup mieux, moi, je trouve.
J'aime bien voilà. Ce qui est bien, mais pas top.
Non, mais alors, on voyait justement, alors, les autorisations, les permis de construire sont en augmentation, le ministre a dit plus 33%, etc. Bon, plus 33% sur un mois, ça vous donne pas une tendance de long terme, quand même.
C'est déjà pas mal.
Très, très raisonnable. Oui, enfin bon, c'est moi, j'aurais la réjouissance modeste pour le coup, et si on prend du côté de la FPI, alors là, il vous explique que c'est la pire année, le pire trimestre pour les ventes.
Des promoteurs immobiliers.
Moins de 11 ou 12 000 logements, j'ai plus les chiffres en tête. Donc on se dit, il y a quand même quelque chose qui va pas avec un taux d'abandon des projets qui est remonté à 24%. Donc là, on se dit, ça va pas du tout. Les promoteurs disent, c'est la faute du Moyen-Orient. Alors, c'est la faute du Moyen-Orient, oui et non.
Ça de la guerre au Moyen-Orient, soyons.
Oui. Non, mais du conflit, parce que ça aurait un impact sur les coûts des matériaux, etc. Et sur la hausse des taux. Alors, on le voit pas
et
encore.
Et psychologique aussi.
Et psychologique aussi, mais bon, je suis pas bien sûr que l'impact psychologique soit si fort que ça. Sur les taux de crédit, ben, dans ces cas-là, au contraire, ça pourrait avoir un effet accélération en se disant, c'est avant que les taux remontent, je souscris maintenant. Et sur les coûts des matériaux, il y a un impact évidemment, mais il n'est pas encore
visible, palpable,
visible totalement. Mais bon, il y a surtout aussi, mine de rien, qui est un peu plus passé discrètement, une petite augmentation des prix du neuf. Alors on va me dire que c'est cette fameuse 5 200 en moyenne contre 5 000 un trimestre plus tôt. Pardon, c'est surtout ça, c'est surtout il faut que les promoteurs, entre autres, soient modérés dans leur offre, proposent des logements qui conviennent à la demande. Effectivement, il faut parce qu'il y a quand même le prêt à taux zéro, il y a le Jeanbrun, enfin il y a quand même toutes les mesures qu'ont réclamé les promoteurs sont là, donc il faut aussi sans doute retravailler sa copie. Et puis il y a un plan aussi qui est de 100 milliards qui a été annoncé, mobilisé par la Banque des Territoires, filiale de la Caisse des Dépôts, pour produire à terme évidemment 650 000 logements abordables, dont 500 000 logements sociaux, c'est-à-dire qu'il y a une part de la construction et de la pré-commercialisation qui va être entre guillemets sécurisée par la Banque des Territoires. Donc il y a quand même des choses. Ouais, faut sans doute voilà. Après il y a sûrement des bonnes explications que je n'ai pas.
Mais on interrogera les promoteurs parce qu'il y a un vrai sujet aussi sur les ventes en bloc qui reculent beaucoup en fait.
Mais oui, mais enfin ils ont eu des plans exceptionnels de ventes en bloc qui leur ont permis de
s'occuper. Ah bah, ils avaient bien soutenu quand même les bailleurs sociaux.
On peut pas en permanence.
Voilà. Bien sûr.
Vous avez raison.
Bon alors je vous cache pas qu'il nous reste que 2 minutes, donc il va falloir qu'on tranche entre les sujets qu'on devait aborder. Et comme je sais qu'on est en pleine déclaration d'impôts, forcément je pense que ce qui intéresse nos auditeurs et téléspectateurs, c'est où déménager pour voir sa taxe foncière baisser.
À Nice Métropole,
Et ben voilà.
Qui doit être la troisième ville la plus chère de France.
Et
mais
ben
bon.
Voilà.
attendez, ok.
En prix de l'immobilier.
Okay.
En
okay.
prix de l'immobilier.
Je suis désolé, Paris qui est très cher n'a pas baissé.
Oh, le Niçois.
A augmenté sa taxe foncière de manière significative, plus de 50% sur les dernières années.
Ah bon, ouais, alors, au prorata de la valeur locative, alors, attends, Paris oui, est l'une des villes où la taxe foncière est la plus faible de France. Ouais, hein,
enfin,
on va le rappeler.
Oui,
pas,
enfin, c'est facile.
Ah, si, si.
Ouais, écoutez, c'est facile à dire. Alors maintenant, qu'on soit d'accord ou pas. Politiquement, et j'entre pas dans ces chapelles politiques-là, mais Éric Ciotti, nouveau maire de Nice et président de la métropole, qu'il avait annoncé dans son programme, il l'a fait, il baisse de manière très sensible la taxe foncière. Ce qui est très intéressant, c'est la façon dont il prend en main le discours à l'endroit des propriétaires.
Ouais, ouais, ouais.
Eh ben, je vais vous dire. On peut ne pas souscrire à ses idées politiques. Parce qu'effectivement, quand je l'ai interviewé avec mon ami Marin.
Olivier Marin.
Qu'on
salue bien.
Il a dit quand même, bon, j'ai une préférence nationale. Bon, j'ai pas.
Bon, c'est pas le sujet des experts de Limo.
Oui, voilà. Mais c'était, ouais, absolument. C'est pas le sujet. Mais le sujet sur le plan technique, je dois le dire, il a amorcé une politique fiscale qui est extrêmement positive et qui a pour effet, effectivement, et ça on l'a mesuré de manière concrète, d'envoyer symboliquement, pardonnez-moi l'idée, un signal de confiance qui a franchement rassuré...
Oui, mais quelle est l'ampleur de cette baisse?
Alors, ça peut monter jusqu'à 4%. Entre 4 et 20%.
Alors attendez, entre 4 et 20% de baisse.
En fait, c'est 20% de baisse et c'est une réduction sur les mécanismes de la fiscalité.
C'est complexe, hein, oui, parce qu'on a la valeur locative auquel on ajoute le taux. Bah,
je vais vous dire, j'ai pas tout compris. Bon.
C'est une baisse, mais on n'a pas tout compris.
Non, mais j'ai pas tout compris parce que vous savez, pour décortiquer, moi déjà j'ai du mal pour la mienne, pour décortiquer. Mais en fait, si vous voulez, voilà ce que dit Éric Ciotti. Je baisse la dépense publique, je me concentre sur la baisse de la dépense publique et par compensation, j'en fais profiter également mes administrés en baissant la taxe foncière.
Eh ben on appelle Éric Ciotti à protéger tout autant les locataires de sa ville aussi d'ailleurs, parce que c'est bien de soutenir les propriétaires, mais soutenons aussi les locataires.
On a un homme politique qui nous a tenu un discours, encore une fois, sans chapelle ni dogme, sur la crise du logement qui est certainement aujourd'hui extrêmement adaptée.
Oui, parce qu'en fait, c'est la musique de l'émission.
Par l'idée que c'est la seule métropole, seule ville en France à l'avoir fait.
Pour l'instant, mais on rappelle que Nice fait partie des villes où les loyers ont le plus augmenté ces dernières années. Donc, par ailleurs...
Donc, il a eu raison de le faire.
Attendons de voir si cette baisse de fiscalité aux propriétaires les incitera à baisser les loyers.
Donc, il a eu raison de le faire. Il a affirmé qu'il n'était pas pour l'encadrement des loyers.
Oui, ben ça, on a bien compris. Merci Sylvain. Sylvain Lévy-Valency, cofondateur de Radio Immo. Et Virginie Groslot pour Challenge. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. C'est toujours passionnant. Ces échanges sont beaucoup trop courts, ça tombe bien. On se retrouve lundi pour un nouvel épisode des Experts de l'Immo.
Les Experts de l'Immo sur BFM Business.